Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement. Là, par exemple, Pomme colle des stickers de The Chien dans un carnet pendant notre interview. Mais je suis très heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période. Pomme est donc chanteuse, autrice, compositrice et interprète et elle a signé à 23 ans son deuxième album intitulé Les Failles, que je ne peux que vous recommander et qui a remporté la victoire de la musique de l'album Révélation de l'année en février dernier. Ensemble, on parle de la confiance qu'elle avait en elle à 17 ans pour accoster des bars ou des salles parisiennes pour y jouer, mais aussi de la perte de cette confiance lors de la création de son second album avec son label. Elle raconte comment elle a trouvé les ressources pour imposer sa façon de faire pour son deuxième album phénomène Les Failles. Une réussite aussi bien artistique que commerciale, puisque comme je vous le disais un peu plus tôt, il a été récompensé aux victoires de la musique. On parle aussi de ce déclic qui lui est venu du Québec pour reprendre le contrôle sur son art, mais aussi de son homosexualité assumée, et enfin de cette EP spéciale confinement enregistrée à l'iPhone, sortie il y a quelques jours, et pourquoi elle avait besoin d'enregistrer ses titres durant la quarantaine. Un grand merci à Pomme. Je ne sais pas si, comme elle le dit, les chiens sont meilleurs que les êtres humains, mais en tout cas, une chose est sûre, Pomme est un très chouette être humain. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez 2 minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Pomme et de ses stickers de chien.
Je suis en train de coller des autocollants de chiens dans un carnet. C'est mon activité du présent.
Tu fais plein d'activités créatives, c'est ça, pendant le confinement là?
Ben ouais, mais surtout les chiens, je me dis que ça vaut vraiment plus le coup que les humains, tu vois. Et là, je leur dédie une page dans mon carnet.
Mais t'es trop jeune pour être déjà à ce point-là comme ça, non?
Désabusé.
Ouais. My God.
Non, je t'enverrai une photo. Au début, j'étais assez motivée pour faire des trucs créatifs et puis je me suis un peu dégonflée là, j'avoue.
T'es dans ta maison, okay. J'ai vu, t'es dans une sorte de magnifique maison, t'es dans ta maison d'enfance, c'est ça?
Ouais, c'est une maison magnifique, je sais pas, mais c'est une maison modeste de banlieue lyonnaise.
Ok, bon, je te préviens, l'interview a démarré. Hein.
Ah bah pas de problème, j'ai commencé à enregistrer déjà. Je suis chaud.
Bon, on est avec Pomme. Ça va,
oui.
Pomme?
Bah oui, ça va, et toi?
Ah, écoute, ça va pas mal. Je suis détendu, donc c'est plutôt chouette.
Ah, ça, c'est bien d'être détendu. Dans la vie, c'est une super qualité.
C'est important.
Bah ouais.
C'est important d'être détendu.
Très important. Très, très important et pas assez valorisé, je crois.
Dans la société actuelle peut-être, mais tu sais que je pense qu'il y a des gens qui vont vivre qui vont sortir de ce confinement un peu différent, un peu changé.
Tu vois,
typiquement, j'ai une de mes filles, il y a une des filles dans mon équipe que j'ai mis à mi-temps là, parce que tu vois, elle avait plus assez de travail. Donc, et en fait, elle m'a dit cette semaine que, en fait, ça lui faisait du bien d'être à mi-temps et qu'elle profitait de son mi-temps alors qu'elle pensait qu'elle allait péter des câbles.
Ah ouais?
Ouais. Parce qu'elle est, plutôt du genre hyperactive. Tu vois, elle fait plein de trucs. Et là, elle me disait, mais waouh, en fait, c'est trop bien, je me rends compte. Et limite, je me demande comment je vais faire pour retravailler à plein temps après.
Tu goûtes à une espèce de liberté de planning. C'est assez agréable quand même. Après, c'est un peu un délire quand même, ce confinement. Mais je pense que peut-être il y a des gens qui... Moi, j'espère un peu naïvement, tu vois, qu'il y a des gens qui vont péter des câbles dans le bon sens et qu'il y a des choses qui vont changer, mais j'ai l'impression que la plupart des gens quand même sont des gros connards, tu vois.
On revient à ce constat alors, c'est ça?
Bah, je sais pas, mais je me dis oui, certes, il va y avoir une minorité de gens qui vont qui vont se mettre à faire des potagers et qui vont se dire waouh, ouais, j'ai envie de me réorienter et de faire les choses différemment, et ça va être super. Mais je pense que enfin tu vois, moi j'espère un peu que les gens ils vont changer. Tu sais, je me souviens au tout début du confinement, j'avais fait une story qui disait où je m'adressais au patron de Coca-Cola et je lui disais, si jamais tu veux te reconvertir et créer une entreprise de toilettes sèches, surtout n'hésite pas, tu vois. Et mais tu vois, j'y crois moins là, enfin je sais pas, je me dis que on verra bien, j'espère. En tout cas, plus il y a des gens qui prennent conscience de trucs importants, mieux c'est. Mais je sais pas si ça suffira pour faire un putsch et une dictature écolo-féministe, tu vois. Je sais pas. Je suis pas sûre.
Déjà, je pense pas que ce soit juste le choix du patron de Coca-Cola de pouvoir transformer sa boîte en boîte de toilettes.
C'est sûr.
C'est peut-être ça un peu le souci. Et on est là pour parler de toi et de ta vie et de ton œuvre.
Oui.
Alors ça me fait trop plaisir de t'avoir parce que en vrai, on se connaît depuis que t'es bébé artiste, hein, et que c'est trop cool de t'avoir vu là cette dernière année exploser comme ça aux yeux du grand public. Et
ouais, c'est vrai que ça a été plus rapide.
C'est fou comme ça a été vite, non?
Bah, disons que par rapport à la cadence que je connaissais depuis quelques années, en effet, on était plutôt sur une cadence un peu plus vénère, quoi.
Ouais.
Mais écoute, c'est plutôt agréable dans le sens où moi j'ai l'impression de récolter aussi les fruits d'un travail que je donne depuis longtemps. Et ça s'est fait, même si ça s'est fait plus vite que d'habitude, quand même, voilà, dans le respect de ce que je voulais, avec des gens autour de moi hyper bienveillants et tout. Mais en fait, ce qui a changé surtout, c'est l'exposition que j'ai eue qui était pas aussi télévisuelle, je dirais, et pas aussi intense dans les dernières années, parce qu'en vrai, dans la manière de fonctionner et tout, ça, j'ai toujours le même label, j'ai toujours le même tourneur et tout. Mais effectivement, je me suis mis à passer à la télé et du coup à peut-être être vue par beaucoup plus de monde que d'habitude, quoi.
Alors, je remets un peu de contexte, mais en gros, Pomme, tu es donc chanteuse, tu es aussi auteure et compositrice. Donc, en gros, tu fais à peu près tout, quoi. Tu es une one-woman band, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit.
Ouais, exactement. Bravo pour l'accent.
I know. Tu as sorti, là, il y a quelques mois, ton deuxième album qui s'appelle Les Failles et qui t'a valu une victoire de la musique de l'album Révélation de l'année.
Voilà, c'est ça, dans les grandes lignes.
Et en fait, je te disais qu'on se connaissait depuis un petit moment, parce que notamment sur Mademoiselle, on t'a suivi depuis je pense, au moins 4-5 ans, quoi, je pense.
Ça fait très longtemps. Et d'ailleurs, sur le deuxième album, c'est la première session acoustique que j'ai faite, c'était sur Mademoiselle aussi.
Trop bien.
C'était genre, c'était tellement tôt dans le processus que j'étais encore bronzée, tu vois. C'était genre en septembre. Et ouais.
Et ton album donc qui s'appelle Les Failles, je l'ai poncé vraiment. Je sais pas si ça se dit pour un album, mais vraiment je l'ai écouté en long, en large et en travers.
Avec du papier à poncer même, tu peux dire. Non, pas du tout. Non, mais merci en tout cas, ça me fait plaisir et je suis contente que tu vois, vous auriez pu vous dire ouais c'était super avant, mais c'est devenu nul.
Mais
et
ouf.
Au contraire, vous avez continué à suivre, quoi.
Mais on en reparlera un peu après, parce que je pense qu'il se passe un truc chez toi par rapport à ça, mais on y reviendra un petit peu après. La toute première question que j'aime bien poser à mes invités dans Histoire de succès, dans ce podcast fabuleux, c'est à quoi ressemblait Claire Mini-Pomme quand elle avait 7-8 ans.
Waouh, ben j'étais un enfant un peu mélancolique, tu vois, mélancolico-dépressif. Avec plein de tristesse, de nostalgie, d'une époque que je ne savais pas quelle époque c'était, mais en tout cas j'étais tout le temps un peu triste. Et en même temps j'aimais beaucoup les gens, j'étais hyper sociable. 7-8 ans, attends, 7-8 ans c'est quelle classe ça? C'est CE1
ouais.
Ben, j'étais assez forte à l'école, j'avais quelques potes, mais en même temps, j'étais aussi souvent un peu solo. J'allais voir une psy parce que j'avais l'impression d'être dépressive trop jeune. Et voilà, j'étais une espèce d'enfant bizarre et sociable en même temps, je crois.
T'allais voir une psy, certes, mais c'est tes parents qui t'ont à un moment donné dit.
Ouais, c'était mes parents, bien sûr. Bien sûr, c'était pas moi qui voulais aller voir une psy à 8 ans. Enfin, ça doit exister, hein, mais pour le coup, c'était pas le cas.
T'en as déjà reparlé avec tes parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui t'ont amené voir une psy quand t'étais...
Mais c'est la grande question, encore aujourd'hui. C'est la grande question de ma vie. Et je crois que j'aurai jamais de réponse parce que mes parents, ils me disent que j'étais difficile, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Et du coup, je suis un peu là, genre, ouais, ok, mais du coup, ça veut dire quoi? Je vous insultais, je vous frappais. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas trop de souvenirs de ça, quoi. Mmh. Et je pense que peut-être j'avais une sensibilité différente de mes autres frères et sœurs, puisqu'on est quatre, et j'ai une grande sœur, un petit frère et une petite sœur, et peut-être j'étais un peu dans un autre délire, quoi, avec... En même temps, je pense pas mal de confiance en moi, ce qui peut être déstabilisant, et puis en même temps, beaucoup de, voilà, comme je te disais, de tristesse un peu inexpliquée. Et du coup, je pense que ça a pu les déstabiliser. Après, je crois qu'ils n'ont pas vraiment de réponse et que ils étaient juste un peu démunis, je pense, tu vois.
Tu l'as toujours aujourd'hui en toi, cette tristesse, j'ai un peu l'impression, non?
Ouais, quand même, bah, j'ai une espèce de... En tout cas, je suis assez inspirée par ça. Pas forcément la tristesse, mais...
Forme de mélancolie,
plus
peut-être
des émotions. Ouais, les émotions qui sont un peu complexes, qui sont en tout cas plus complexes que la joie ou la satisfaction ou la fierté, qui sont des émotions que je ressens aussi souvent et que j'adore ressentir, mais qui me posent moins de problèmes, qui me causent moins d'angoisse et tout. Et du coup, je pense que les émotions que j'essaye de décortiquer et qui m'ont toujours un peu fascinée et je pense auxquelles je m'accroche aussi, c'est ça, c'est que depuis que je suis enfant... Si je me sens triste, je m'accroche à ça parce que je sens que c'est quelque chose qui peut me rendre créative et qui peut m'amener à créer des choses, quoi.
On en reparlera après de ton process de création, justement. Tu faisais déjà de la musique à l'époque?
Je faisais de la chorale.
Ok.
Et en plus de la chorale, je faisais du violoncelle, du solfège, et je composais des petites chansons déjà, tu vois, genre au piano ou même a cappella. J'avais écrit une chanson pour la mort de mon lapin Poppins avec mon piano.
Ah oui.
Et ouais, 2004, 11 novembre 2004, petit ange parti trop tôt. T'es mort de rire ou ça se passe comment?
Mais non, mais oui, je t'imagine très bien en train de composer cette... Cette
bah,
chanson pour ton lapinou, quoi.
Bien sûr.
Mais est-ce que t'as... Oui, donc tu étais dans un parcours de conservatoire, c'est ça?
J'ai fait une espèce d'école de musique qui n'est pas un conservatoire. Genre, c'est pas un truc qui est intégré à l'école. C'est un truc qui est périscolaire, donc où j'allais, tu vois, une ou deux fois par semaine prendre des cours de violoncelle, faire un peu de solfège et tout. Mais j'allais dans une école publique... classique avec voilà des enfants qui n'étaient pas forcément musiciens. C'était vraiment okay. Un truc que je faisais en dehors de l'école, quoi.
Ok. T'as la sensation que ça s'est professionnalisé à partir de quand exactement? Est-ce que déjà t'as la sensation d'être professionnalisé? C'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais en tout cas que t'as la sensation que à un moment donné tu pourrais t'aimerais bien faire ça et t'y investir un peu plus, quoi.
Bah, en fait, c'est bizarre parce que je pense que ça a toujours été un peu mon rêve. J'ai toujours rêvé d'être dans ce secteur-là, de la culture, de l'art, de créer, de pouvoir m'exprimer devant des gens et tout. Et en même temps, je pense que pour moi, c'était tellement impossible que j'avais une espèce de tendance à me dire que ça resterait un plan B, quoi, tu vois, que ça resterait, tu vois, à l'inverse des gens qui font ça et puis qui se disent qu'ils auront un plan B. Moi, c'était un peu ça, mon plan B. Genre, au cas où la vie est cool, je pourrais peut-être faire ça, tu vois. C'était okay. Un peu ça, le plan. Et du coup, enfin, j'ai pas forcément basé ma vie là-dessus ou ma construction là-dessus, même s'il y avait beaucoup de musique dans ma vie. C'est plutôt à l'adolescence où c'est devenu un peu plus sérieux et où je me suis mis à faire des concerts... Dans des bars à Lyon et à me professionnaliser entre gros guillemets, dans le sens que c'est devenu ouais une espèce de grosse priorité pour moi. Ça passait avant plein de trucs, ça passait même avant les cours et tout, et c'est devenu un peu mon obsession. Et je pense que j'ai réalisé au lycée que ça pouvait potentiellement être mon métier, quoi.
Mon lycée était à la Croix-Rousse à Lyon, et puis les premiers bars dans lesquels j'ai joué, c'était dans le Vieux-Lyon. Et du coup, bah, je me mets à faire les premières parties de groupes de rock de mon lycée. Je me mets à créer une chaîne YouTube. Je mets des reprises sur ma chaîne YouTube. Et puis je vois que tous les gens autour de moi sont quand même hyper encourageants, qu'il y a toujours plein de gens qui viennent à mes concerts, que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde est à fond, quoi. Et ouais, il y a un truc où je me dis, ah ouais, peut-être qu'il y a une possibilité, tu vois, peut-être qu'il y a un truc qui peut se passer. Mais pas un truc genre, je vais aller faire la Star Academy, tu vois, plus un truc que je savais que ça allait prendre des années, quoi. Mais je suis sur les rails d'un truc, en vrai. Je pense que j'étais à 17 ans, je commençais à me dire ça, quoi.
Et donc, cette histoire de plan B finit par plus être un plan B, alors ?
Bah, c'est ça, à partir de cet âge-là, je commence un peu à organiser toute ma life autour de ça, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment de vie sociale, dans le sens où, en fait, je me suis mis à faire des allers-retours entre Lyon et Paris hyper tôt, genre en première, à 16 ans, parce que j'avais pris contact avec des salles là-bas, enfin, moi j'étais hyper volontaire, j'avais mon mail type qui disait bonjour, je m'appelle Claire Pommet, j'ai 16 ans, je voudrais jouer dans votre salle, et en fait j'avais eu une réponse des Trois Baudets à Paris qui à l'époque venait de réouvrir après avoir été je sais plus trop quoi, un cabaret sexy je crois. Et en fait ils organisaient des soirées Trois Baudets avec trois artistes, un artiste qui jouait un quart d'heure, le truc qui n'existe plus maintenant dans les années 2020, un artiste qui jouait 30 minutes et un artiste qui jouait une heure, et en fonction de l'avancement dans la carrière de chaque artiste. Et moi j'avais fait, je crois, un de mes premiers concerts à Paris, c'était là-bas, et c'était en première partie d'autres groupes, du coup je sais plus qui c'était exactement. Et du coup je m'absentais du lycée déjà pour faire ça, et je faisais passer la musique largement avant le lycée de 1 et puis ma vie sociale, quoi.
On n'a pas parlé de comment vivent tes parents, du fait justement que tu sois un peu en train de décrocher de ton lycée. Ils font quoi tes parents dans la vie ?
Mes parents, mon père travaille dans l'immobilier.
Ok, donc très peu artiste.
Et non, pas du tout. Et ma mère est en disponibilité, elle fait plein de bénévolat, mais elle était institutrice dans des prisons.
Ok.
Donc, enfin, instit à la base, mais après elle s'est mise à enseigner dans des prisons. Donc voilà. Et puis au bout d'un moment, elle a arrêté parce que en fait, elle avait envie de. Enfin, je pense que ma mère, elle rêve d'un monde qui soit pas un monde capitaliste et où tout le monde puisse être bénévole et planter ses graines. Et moi aussi, j'aimerais bien vivre dans ce monde-là, mais il n'existe pas malheureusement.
Et donc, comment vivent tes parents le fait que petit à petit ils voient leur fille décrocher de l'école ?
Ben, je pense que depuis le début, j'avais quand même des super résultats à l'école, et du coup, il y a une espèce de confiance en le fait que malgré mes absences au lycée, malgré l'investissement moindre quand même au lycée, je m'investis quand même et ils savent que je vais réussir, que je vais avoir mon bac. Et ouais, ils me font vachement confiance à tel point que rapidement dans le processus, ils m'accompagnent même plus à Paris. Je vais toute seule à Paris à partir de... Je pense qu'à la fin de la terminale, j'y allais toute seule, quoi. Même courant de la terminale, j'y suis allée toute seule dans mes souvenirs.
Liberté, quoi.
Ouais, il y avait un truc... et en même temps, ils suivaient quand même le truc, tu vois, genre... Ouais. Ils étaient pas, ils me laissaient pas totalement livrer à moi-même, mais il y avait quand même un truc... de se dire, bah, en fait, depuis le début, j'ai jamais fait d'excès, j'ai jamais été dans un truc malsain, ça a jamais été un truc complètement impossible, dans le sens où mes objectifs ont jamais été des objectifs. Je pense que j'ai vraiment fait un truc étape par étape, et du coup, je pense qu'ils ont confiance en moi, quoi. Ils avaient confiance en moi à l'époque, du coup ça s'est passé très naturellement, il n'y a pas eu de... Je me souviens pas en tout cas qu'il y ait eu de problèmes d'accro avec mes parents en mode « Ouais, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu dois faire ci ou faire ça. » C'était vraiment... Ça se passait bien et c'était fluide, quoi.
Trop bien.
Ouais, j'imagine que c'est une chance.
Ouais, j'imagine que ça a facilité la vie, toi, dans tes projets, quoi.
Bah ouais, en fait, c'est ça, j'avais pas ce poids-là que certains ont de me dire « Voilà, mes parents, ils sont derrière moi », dans le sens où... ils me laissent pas de liberté, ils sont inquiets ou quoi. Probablement qu'ils l'étaient un peu, mais voilà, ça dépassait jamais une certaine limite qui m'a permis finalement de me construire toute seule, sans qu'ils s'investissent, comme certains parents un peu managers et tout, ça c'est un peu ma phobie.
Ouais.
Et sans, bah, sans non plus qu'ils me renient, quoi. C'est vraiment un entre-deux assez sain, je trouve.
C'est cool. Et donc là, tu passes de plus en plus de temps à Paris, justement, pour trouver des concerts, etc.
Ouais.
C'est quoi l'étape d'après? Il y a un moment donné où tu te fais repérer, c'est ça? Comment quid?
Je rencontre pas mal de gens bah, dans mes pérégrinations des Trois Baudets, dans des bars et tout. Moi, je vis dans l'appart que mon cousin me sous-loue. Lui, il va vivre avec son mec et il me sous-loue un appart en toute illégalité. Et du coup, je me mets à vivre dans le 11e, tu vois, un quartier trop cool en plus, en étant... En ayant 18 ans, quoi. Donc, je vis un peu ma meilleure vie. Je fais du babysitting pour gagner un peu d'argent. Et en fait, alors, il y a mon tourneur qui est arrivé assez tôt dans le processus, qui, en fait, que j'ai rencontré de babysitting en babysitting, puisque j'ai fini par aller faire du babysitting chez mon tourneur, donc, qui n'était pas encore mon tourneur à l'époque, mais voilà. Et qui me dit, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, bah voilà, moi, je viens de passer mon bac, je fais de la musique et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Et il me dit, ah bon, mais il faut que tu me fasses écouter. Et puis, bah, en vrai, après leur avoir fait écouter, donc c'était Unité qui est toujours mon tourneur, ils m'ont dit, bah viens, on sera ton tourneur. Je lui dis, ah bah super.
Mais en fait, tu savais. Mais tu vas me dire que t'es tombé par hasard sur lui ou.
Bah, en fait, moi, j'avais quelques connaissances. En fait, j'avais. L'histoire de base, qui est vraiment les prémices de ma signature avec mon label et mon tourneur, c'est une meuf qui est aujourd'hui une très bonne amie à moi, qui s'appelle Anouk, que j'avais vue, moi. Donc vraiment, c'est, faut que je reparte très très loin, parce que je l'ai vue en première partie de Cœur de Pirate quand j'avais 15 ans, tu vois, genre okay. J'étais en seconde. Et en fait, je la vois en première partie, elle avait un groupe à la place qui s'appelait Anouk Ayata and the Birds, ou je sais pas quoi, c'était un truc hyper long.
Ok.
Et du coup, moi, je lui ai écrit sur Facebook, machin. Je lui ai dit, mais j'ai adoré ton concert, c'était super. Et puis, on se met à avoir une espèce de correspondance un peu facebookienne. Et puis, on s'envoie nos EP et tout. Elle était signée dans un label à l'époque. Et en fait, son mec de l'époque était un chef de projet chez Polydor. Et du coup, les premières fois où j'ai joué aux Trois Baudets, dont je parlais au début, elle était hal tout le temps. Elle m'a même hébergé chez elle et tout. Et c'est grâce à elle... via son mec que j'ai rencontré mon premier directeur artistique chez Polydor. Et en fait, c'est elle aussi qui me mettait un peu sur des plans de babysitting, parce que elle a 15 ans de plus que moi ou 12 ans de plus que moi. Et du coup, elle avait plein de potes qui avaient des enfants en bas âge, et de fil en aiguille, elle était plus ou moins entourée de gens qui étaient un peu dans cette industrie-là. Donc moi, j'étais juste là un peu en mode babysitter de 18 ans, et puis aussi un peu en mode je fais mes premières chansons et tout. Et du coup, j'ai rencontré mon tourneur et mon label indirectement, mais quand même un peu grâce à elle, quoi.
Waouh.
Ouais, c'est une bonne histoire pour Disney, quoi, tu vois.
Ouais, et en même temps, tu l'as un peu provoqué, ta chance aussi, quoi, tu vois. On est en contact avec et tout, quoi.
Bah ouais, 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 en fait, c'est ça, c'est que moi, j'avais pas peur, tu vois. Je me disais, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire, tu vois. Je lui ai écrit sur Instagram, j'avais pas Instagram à l'époque,
ouais,
mais sur
pas
Facebook.
Instagram.
Non, ça existait pas, mais je l'ai écrit sur Facebook, quand Facebook était encore un truc, tu vois, que les moins de 50 ans pouvaient fréquenter.
Que les jeunes.
Et voilà.
Et t'as jamais eu ce sentiment, toi, de « Ok, en fait, mon truc, il est pas à la hauteur, nanani, nanana. » Tu t'envoyais ta musique directe, t'en étais fière.
Ben, je crois que j'avais une espèce d'insouciance de... dû à mon âge, tu vois. Il y avait un truc où je me disais pas ma musique elle est à la hauteur ou pas, parce que à la hauteur de quoi, je savais pas, et j'avais pas vraiment d'autre objectif que de faire des concerts, tu vois.
Ouais.
Pour moi, faire un concert aux Trois Baudets, c'était déjà un objectif tellement énorme, c'était déjà tellement intense que je me disais bah peut-être que ma musique est pas à la hauteur pour faire un album, mais par contre pour chanter des chansons devant des gens, je trouvais que c'était suffisant et que je pouvais que j'avais une chance de toucher les gens et tout. Mais c'est vrai que j'avais pas d'objectif plus grand à l'époque, à 17-18 ans, que celui de à la limite sortir une chanson, tu vois. Mais c'était raisonnable, quoi.
Ouais, ouais. Mais t'avais déjà la confiance pour... En fait, c'est marrant parce que je me dirais que c'est quand même plus simple d'enregistrer des trucs chez soi et de les envoyer que de se produire devant des gens qui ont face à tout, qui sont face à toi et qui réagissent ou pas à ta musique, quoi. Et toi, d'entrée, tu racontais dès le lycée, t'allais jouer dans des bars, quoi.
Ben ouais, c'est sûr que j'avais. En fait, je pense que c'est un mélange d'insouciance, de naïveté et d'une certaine confiance en moi, je pense quand même, tu vois.
Ouais.
D'un truc de. Je pense que je me disais que j'avais rien à perdre, tu vois. Je me disais de toute façon, si on me répond pas, s'il y a 3 personnes qui viennent voir mon concert, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. C'est pas un truc qui va me traumatiser, c'est pas un truc qui peut être négatif en fait. Enfin, je voyais pas trop comment ça pouvait être négatif, quoi. Tu vois.
Ouais. Elle te vient d'où, cette confiance ?
Bah ça, je sais pas, peut-être... je sais pas vraiment, peut-être... je sais pas, c'est une bonne question. Difficile de répondre à cette question, parce que en plus, moi, j'ai une confiance en moi qui est super changeante, tu vois, il y a des moments où vraiment, j'ai pas du tout confiance en moi, et puis il y a des moments où vraiment, je me sens trop fraîche. Et du coup, j'ai toujours eu un peu ce truc-là, j'ai toujours eu une espèce de truc un peu inconstant, et donc c'est dur de savoir trop d'où ça vient, tu vois. Je sais pas trop si c'est un mélange des gens que j'ai fréquentés, de mon éducation, de ma personnalité, enfin je sais pas trop en vrai.
Ok. Tu montes à Paris, définitivement, après le bac, c'est ça, non ?
Ouais. En fait, il y a un espèce de déménagement un peu échelonné qui se fait en réalité qui se fait en des mois, parce que même des années, parce qu'en fait au début je fais ma première année post-bac à la fac à Lyon, et du coup au début je suis plutôt à Lyon à la fac, et puis de temps en temps je viens à Paris pour continuer de faire mes rendez-vous, mes maquettes d'albums et tout. Quand je signe mon contrat avec Polydor, je suis encore, et avec Unité, je suis encore à Lyon.
Tu fais quoi comme études ?
Et je fais une fac d'anglais, fac de littérature et civilisation des pays anglophones.
Waouh !
Donc, voilà. Et du coup, je fais ma première année de fac à Lyon. Avec une dispense d'assiduité, bien sûr, parce qu'en vrai, j'avais déjà mon contrat, j'étais déjà au max, et j'étais déjà tout le temps en train de faire des allers-retours et tout.
Ah, t'avais déjà signé entre-temps, c'est ça ?
Ouais, c'est okay. Ça. Je crois que j'ai signé en... Attends, je réfléchis. Est-ce que j'avais ma... J'ai eu mon bac en juillet 2014.
Ouais.
Donc, ça veut dire que j'ai commencé la fac en septembre 2014, et j'ai signé mon contrat en janvier 2015. Donc, tu vois, j'ai eu rapidement... un contrat d'artiste, et du coup je fais des allers-retours, et puis rapidement je transfère ma fac à Paris pour pouvoir habiter à Paris et que ce soit moins compliqué.
Ouais.
Et puis je fais une demi-année de fac à Paris.
Ouais.
Et j'arrête la fac, et là on peut dire que je crois en juillet 2016, du coup, que je déménage vraiment à Paris. C'est-à-dire que voilà, je récupère l'appartement de mon cousin officiellement, je transfère toutes mes affaires et tout. Et du coup, voilà, j'avais fait 6 mois de fac, et je m'étais rendu compte que c'était impossible de faire les deux en même temps, ou en tout cas de bien faire les deux en même temps, c'était compliqué, quoi.
Mmh. Et là, tu commences à bosser, j'imagine, sur ton premier EP, c'est ça ?
Ouais, en fait, ça faisait même des mois qu'on avait fait plein de chansons,
okay.
qu'on a commencé. Dès que j'ai rencontré Polydor en 2014, en fait, on a commencé à... Je crois que je les ai rencontrés en janvier 2014, et j'ai signé avec eux un an plus tard. Donc, pendant un an, on a fait plein de maquettes et tout, plein de rendez-vous. Et je commence à bosser sur mon premier EP en cavale, sur lequel j'ai écrit une seule chanson. Donc il y avait énormément d'auteurs-compositeurs qui gravitaient autour du projet, qui proposaient des chansons. Et moi, je trouvais ça normal parce que j'étais très fan de Camélia Jordana. Et sur son premier album, déjà, on avait le même DA, donc j'étais trop contente, ça s'appelait Yann Gazi. Et en plus, elle avait eu ça aussi, c'est-à-dire qu'elle avait eu une espèce comme ça d'appel d'offres trop chelou où tout le monde écrit des chansons pour toi sans jamais savoir qui tu es vraiment.
Ouais.
Enfin, elle, c'était différent parce qu'elle était passée à la télé et tout, donc je pense que les gens, ils avaient peut-être une idée plus précise.
Ouais.
Mais moi, c'était vraiment genre juste des gens qui proposaient des chansons parce qu'on leur disait c'est la prochaine sensation pop folk de la France, quoi, tu vois. Et du coup, les gens, ils écrivent des chansons, mais tu sais pas trop qui c'est. Donc, je sors cette EP avec un seul titre que j'avais écrit qui s'appelait Je suis pas dupe.
Ouais.
Et que j'avais fait sur Mademoiselle d'ailleurs.
Bah oui.
Dans ma cour d'immeuble.
Bah oui, je mettrai le lien dans les notes.
Et voilà. Et franchement, je sais pas, je dois avoir 18 et quelques, ah, tu vois, ouais, quand j'ai enregistré, peut-être 19 en max. Et voilà, je sors cette EP. Et cette EP, il est plutôt bien reçu. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé un peu à perdre confiance en moi, tu vois, bizarrement. J'arrive dans ce milieu-là et tout. En vrai, après, t'es très, très, très entouré. Et c'est plus difficile d'être sûr de soi parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont questionner tes convictions, tes valeurs, tes choix et tout. Et du coup, je pense que là, j'avais moins confiance que quand j'avais 16 ans et que j'envoyais des mails, quoi, tu vois.
Ouais, ouais. Bah, j'imagine que...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand tu rentres dans ce milieu-là, en plus, je pense que tu rentres dans un label comme ça, c'est des professionnels de la musique, quoi. Donc, tu dois te dire toi aussi, ok, ils connaissent leur métier, quoi.
Bah, en fait, voilà, il y a que des gens plus vieux que moi, beaucoup d'hommes qui sont impressionnants. Moi, je suis hyper jeune, je suis à peine adulte. Et je me dis, bon, bah là, en fait, ma confiance en moi, je me rends compte qu'à une échelle d'un monde comme ça, elle est un peu dérisoire et que finalement, le fait de plus du tout. En tout cas, j'écrivais encore des chansons, mais que mes chansons soient pas retenues, entre guillemets, parce que c'était un peu ça, quand même, le sentiment, tu vois. Mmh. Pour être sur mes propres albums, mes propres disques, c'était un peu bizarre quand même. Je pense que ça a fait. Ça a créé un truc un peu chelou. Dans le sens où. Ouais, il y avait un truc de genre, bon bah en fait, c'est plus trop moi qui décide, quoi.
Ouais.
En gros.
Comment t'as vécu ça?
Bah, je te dis, je pense que ça m'a pas mal affecté. Ça a beaucoup affecté ma confiance en moi, je pense. Mmh. Il y a quand même un truc de me dire que, ben finalement, en fait, les autres ils savent peut-être mieux que moi et que mes chansons elles sont peut-être pas à la hauteur d'un album et tout. Et puis ouais, ça m'a amené quand même à faire un. Alors le premier EP, je l'aime beaucoup parce que j'étais tellement jeune qu'il y a un truc où il y a pas vraiment de, tu vois, j'ai pas de sentiment de regret, de sentiment de me dire ah, j'aurais pas dû faire comme ci ou comme ça. C'était juste tellement cool pour moi d'aller enregistrer un EP avec des musiciens que, en fait, les gens, le fait que les gens me guident et le fait parfois que ça prenne peut-être plus le pas, peut-être un peu trop le pas même sur mon avis, ça me dérangeait pas. Après, ça s'est un peu reproduit sur l'album et là c'était plus compliqué parce que j'étais plus vieille, j'avais moins l'excuse de
j'étais plus vieille, j'avais 21 ans.
Ouais, mais c'était ma deuxième production, entre ouais. guillemets. Et du coup, moi, j'avais pas envie de revivre la même expérience et ça a été encore plus compliqué parce que qui dit album dit quand même plus d'enjeux, dit un budget plus conséquent pour le label. Et je pense que le premier EP, il a donné une espèce de saveur à mon projet qui était un peu mi-figue, mi-raisin, tu vois.
Ouais.
Dans le sens où il y a des gens qui se sont dit « Ah, c'est cool, c'est un peu de la folk et tout. » Et puis, il y a d'autres gens qui se sont dit « Ah, c'est de la pop un peu insignifiante, quoi.
Okay. »
Et moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et puis, j'avais une image qui allait avec, que je contrôlais pas. J'étais pas forcément très naturelle et pas forcément très moi-même dans mon image. Et du coup, voilà, il y a eu une espèce de... Et le premier album, c'était un peu genre, bah, soit ça confirme ce que certaines personnes pensent, soit ça confirme ce que d'autres personnes pensent. Et moi, dans tout ça, je savais pas exactement... Où je voulais aller et qui j'étais non plus à 21 ans, je te dis, j'avais quand même perdu un peu le sens de ce que je voulais faire, quoi.
Ouais, ouais, ok. C'est intéressant parce que j'aimerais bien comprendre un petit peu comment t'as fait pour... Est-ce que entre ton premier album et ton deuxième, t'as retrouvé une forme de contrôle, j'imagine, par rapport à...
En fait, c'est ça. Ouais. Bah, c'était, au début, c'était une réaction carrément, tu vois. Au début, c'était... En fait, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est qu'entre le premier et le deuxième album, j'ai passé beaucoup de temps au Québec. Et là-bas, bah, t'as dû déjà y aller, j'imagine, tu dois connaître un peu.
Ah oui. Quel beau pays.
Bah, il y a... Voilà, en fait, il y a un truc où j'ai beaucoup traîné avec des femmes plus vieilles que moi, mais toujours avec ce truc que j'ai toujours recherché dans mes relations, en fait, de ce truc d'indépendance, ce truc d'assumer ses choix et tout. Et là-bas, en fait, ils ont une industrie de la musique qui est opposée à la nôtre, dans le sens où il n'y a pas vraiment de gros labels, c'est que des tout petits labels qui sont indépendants et qui, du coup, fonctionnent à la manière de nos labels indépendants à nous, dans des contrats de licence qui sont des contrats où les artistes sont beaucoup plus libres et où ils sont maîtres de leur choix artistique. Et du coup, en fait, pour moi, moi j'arrivais dans un monde merveilleux, quoi, où les artistes avaient le choix, où les artistes se faisaient rien imposer et tout. Et j'étais là, mais en fait, c'est dingue. Enfin, c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse de la musique et c'est comme ça qu'il faudrait que je fonctionne. Et peut-être que comme ça, je saurais mieux ce que je veux et que ce sera plus simple d'exprimer ce que je veux. Et c'est vrai que mon temps passé là-bas a été hyper instructif là-dessus. Et voilà, et quand je retournais en France, à chaque fois, j'avais l'impression d'avoir un peu plus de confiance en moi, ou en tout cas d'avoir plus de clés pour pouvoir répondre au label dans mes rendez-vous, pour pouvoir imposer un peu ce que je voulais. Et du coup, le premier album, c'était une espèce de premier pas vers ça, avec des compromis, avec des choses que j'avais pas forcément... prévu de faire comme ça, mais qui ont été faites de cette manière-là et tout. Et à la fin du premier album, j'étais à moitié déçue, à moitié contente, et je me disais, mais en fait, faut que je fasse de la musique et que ce soit un truc dont je suis archi fière, parce que j'ai quand même la chance d'être musicienne, c'est-à-dire que je vis de mon métier, je vis de créer, quoi, ce qui est quand même un truc de fou. J'ai pas à me poser la question d'avoir un job alimentaire et tout, mais je vide ça tout en faisant pas ce que j'ai vraiment envie de faire, quoi. Donc je trouvais ça un peu, tu vois, un peu dur, quoi, un peu nul même. Et du coup, je me suis dit, un peu en réaction à tout ça, aux 5 premières années que j'ai passées dans cette industrie de la musique, je me suis dit, bah, si tu fais un autre album, tu le fais toute seule avec 100% du contrôle, sinon tu fais pas d'autre album, quoi. Genre, ouais, c'était, ouais. C'était un peu une condition pour moi. Et du coup, j'étais tellement persuadée de mon truc que j'étais tellement remontée et tellement aussi un peu frustrée, je pense, tu vois. Il y avait un mélange de plein de trucs que, du coup, le deuxième album, je l'ai fait pas du tout dans les mêmes conditions que le premier, quoi.
Attends, on va y revenir, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le Québec aussi. Parce que j'ai la sensation que ça a été un peu un élément déclencheur chez toi, quoi.
Ouais, ouais, à fond. Bah, en fait, j'étais totalement obsédée par Cœur de Pirate quand j'avais 15 ans.
Ok.
Et je m'étais dit, c'est marrant parce qu'au tout début, quand elle avait sorti ses premières chansons, j'aimais pas du tout. Et ça m'agaçait. Et puis au bout de 2 ans, j'ai trouvé ça génial.
Pourquoi t'aimais pas?
Le deuxième album. Ben, le premier album, j'avais pas trop accroché. Je crois que j'étais trop jeune, tu vois. J'étais, ouais, dans un truc, j'avais 10 ans. Je sais pas quand il est sorti son premier album, mais j'ai l'impression qu'il est sorti genre en 2008, tu vois.
Ouais,
et j'avais 11 ans ou 12 ans et j'étais pas forcément à fond dans le truc. Mm. Et quelques années plus tard, quand elle a sorti le deuxième, qui s'appelait Blonde, je sais pas, ça m'a transcendée. Je pense que j'ai eu mes premières poussées d'hormones, tu vois, j'ai eu mes premières émotions amoureuses.
Ouais.
Et du coup, ça m'a vachement plus parlé qu'à 11 ans. Et du coup, j'ai commencé à développer une certaine obsession pour le Québec.
Mais t'étais amoureuse de Cœur de Pirate, voilà, carrément, c'est ça?
Non, j'étais pas. Bah, alors, à l'époque, je sais pas si je pouvais conscientiser ça comme ça, probablement, ouais, que j'étais un peu amoureuse d'elle, mais j'étais un peu amoureuse de plein de chanteuses, tu vois. J'aimais, ouais, beaucoup Camélia Jordana, j'aimais beaucoup Luce, j'aimais beaucoup Lady Gaga, Miley Cyrus, tu vois, comme plein de petites filles et jeunes filles de l'époque.
Ouais.
Mais probablement qu'il y a une sorte d'amour, tu vois, qui est un peu inconscient, d'amour amoureux. Mais du coup, je me disais, mais moi, ma place, c'est au Québec, quoi, tu vois, faut que je vive au Québec, genre. Mais je sais pas si je reliais ça directement au fait de rencontrer Cœur de Pirate, mais en tout cas, je me disais, ça a l'air d'être super comme endroit, et c'est quand même l'endroit où habite Cœur de Pirate, tu vois. Et du coup, j'ai fait mes TPE quand j'étais en première sur le Québec, donc tu sais, un truc qui compte pour le bac, ouais, là, l'espèce d'exposé. J'avais embrigadé des potes à moi pour mon TPE pour faire sur le Québec,
Et ouais, j'ai toujours été fascinée. Et du coup, je me suis très vite mise à écouter de la musique québécoise. Ce qui était le cas de à peu près personne dans mon entourage quand j'avais 16 ans. Et j'écoutais les Sœurs Boulet, Philémon Simon, et qui sont tous devenus mes amis. Et en fait, ouais, il y a un truc avec le Québec où... Il y a toujours eu un truc où quand je vais là-bas, je sens que c'est un truc naturel où je suis à ma place et où... Enfin, tu vois, genre, le fait que j'ai écouté tous ces artistes-là en étant ado et que ce soit tous devenus mes amis, pour moi, c'est comme un signe que voilà, que là-bas, en fait, j'ai plein de trucs à vivre, que c'est un peu l'endroit où je rêve d'habiter depuis que j'ai 14 ans et c'est un peu l'endroit idéal pour moi. Et du coup, en y allant beaucoup... La première fois que j'y suis allée, j'avais 19 ans et j'avais... Enfin, il y avait un manager plutôt qui m'avait trouvé sur Facebook ou je sais plus trop quoi. Et il y avait beaucoup Facebook dans ma vie à l'époque, maintenant c'est moins.
Bah, t'as Insta.
J'ai Insta.
C'est toujours Facebook, hein, tu sais.
Ben ouais, c'est toujours Facebook, c'est vrai. Mais du coup, j'avais réussi à trouver une excuse pour aller au Québec en gros. Okay. C'était très bizarre parce que c'était pendant les attentats du 13 novembre.
Ok.
Mais c'était quand même un truc de fou parce que pour moi c'était un peu je réalisais mon rêve et en plus j'ai eu aucune once de déception par rapport à ce que j'avais projeté quoi tu vois. Et j'ai fait des concerts là-bas direct en arrivant, je faisais des premières parties de groupes locaux tu vois. Et ouais c'était fou et j'ai rencontré plein de gens là-bas comme ça. Et je me suis fait une espèce de famille musicale quoi en gros.
Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs mais moi quand je suis allé au Québec, il y a un truc qui m'a marqué c'est qu'il y a... Là-bas, tous les artistes français sont importés, mais en revanche, dans l'autre sens, ça se fait très très peu, quoi. Tu vois, au final, en dehors des quelques noms très très connus, y a pas beaucoup d'artistes québécois qui arrivent à
parce
traverser.
Parce que les Français, ils se moquent tout le temps de l'accent québécois, du coup, ça pose problème, je pense, pour exporter des artistes. Il y a un truc, je pense, honnêtement, je pense qu'il y a un peu un truc de snobisme de l'accent québécois qui fait que c'est dur pour les... Moi, j'ai déjà entendu dans des conférences, parce que j'ai fait... J'ai fait pas mal de projets franco-québécois. J'ai fait un truc qui s'appelait La Traversée avec le Fer qu'on a fait il y a 2 ans où il y avait une moitié d'artistes québécois, une moitié d'artistes français. Et j'ai entendu dans des conférences, que ce soit des Québécois ou des Français, hein, tu vois, des diffuseurs, des programmateurs, des labels dire aux artistes québécois pour réussir en France, il faut que vous gommiez votre accent québécois, tu vois. Et c'est vrai que bah, quand tu pars de ce principe-là, je comprends que les jeunes Québécois, ils n'aient pas forcément envie... de faire cet effort-là, c'est un peu bizarre, tu vois, il y a un truc un peu bizarre. Après, il y en a quelques-uns, il y a quand même Hubert Lenoir qui a fait pas mal de concerts ici dans les dernières années, il y a un groupe qui s'appelle Les Louanges, là, qui est venu aussi un petit peu jouer, il y a Safia Nolin, tu vois, il y a quand même quelques artistes, mais c'est vrai que, à part, genre, Pierre Lapointe et Linda Lemay et Garou, il n'y a pas eu de très gros succès dans les 20 dernières années, quoi.
Ouais, c'est sûr. Non, mais si t'as quelques noms, j'ai noté ceux-là, je mettrai des liens, si tu veux, dans les notes du podcast pour que les gens puissent découvrir.
Bah ouais.
Mais
bah,
c'est dommage
Philémon
que...
Philémon Simon, c'est mon préféré.
Tu disais, pardon ?
Au Québec. Philémon Simon, Philémon comme Philémon, personne s'appelle Philémon sauf lui, mais lui s'appelle comme ça. Et Simon avec un C.
Ok, bah c'est noté, je mettrai des liens si jamais vous voulez découvrir les artistes québécois préférés de Pomme.
Yes.
J'avais une autre question aussi, c'est que je trouve que je trouve ça assez cool que tu aies réussi à dépasser, je sais pas si c'était une petite paire de boules que tu avais envers ton label par rapport à l'expérience de ton premier album pour te dire ok je remets tout à plat et en vrai on va continuer à retravailler ensemble sur ce deuxième album là mais à ma sauce.
Ouais, en fait il y a eu un truc, je pense qu'il y avait ce truc dont je te parlais qui était un peu voilà une condition sine qua non pour moi. C'était un peu je suis allée les voir, je leur ai dit bon, le premier album on s'est un peu planté, je crois que on n'a pas trop vous avez pas trop compris ce que je voulais faire, moi-même j'étais un peu perdue, donc pour le deuxième j'ai besoin de reprendre les rênes du truc, et si c'est pas le cas pour moi c'est pas possible de refaire un album dans ces conditions là ça m'a rendu trop triste, ça m'a trop frustrée, ça m'a pas du tout épanouie. Je me souviens de la sortie de mon album qui était un des meilleurs et des pires moments de ma vie où j'étais j'ai jamais été aussi mal, et en même temps je me disais c'est super tu sors un album, mais j'étais tellement pas fière à 1000% de cet album que du coup j'étais dans un truc totalement paradoxal qui était pas ouf à vivre, et j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup perdu confiance en moi à ce moment-là, et du coup je leur ai dit en fait, moi je revis pas ça comme ça. Soit on le fait différemment, soit on se serre la main et on se dit au revoir, tu vois. Et en fait, il y a eu un changement de patron de label et tout. Et donc il y avait une espèce de remise à zéro, je sais pas comment dire ça, tu vois, mais de retour à la case départ un peu, dans le sens où voilà, ils avaient compris que j'allais pas faire de la pop sucrée et qu'on n'allait pas pouvoir continuer dans ce créneau-là parce que moi ça allait me mettre mal parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire.
Oui.
Et que s'ils me laissaient un peu choisir, il y avait moyen de créer quelque chose de nouveau parce que bah moi j'avais des choses à dire quoi. Mm. Et du coup, ils m'ont laissé faire mon album sans directeur artistique, sans intervenir à aucun moment dans le processus. J'ai tout écrit, tout composé, tout choisi. C'est moi qui ai choisi Albin. J'ai choisi la personne qui, Nathalie Ambivalente Lyons, qui s'occupait de tout le graphisme. J'ai fait les clips que j'ai écrits avec mon meilleur ami. Enfin, et en fait, j'aurais livré l'album mixé à peu de choses près et je leur ai dit voilà, c'est mon album. Je vous avais prévenu que y a pas de tube, mais c'est un peu à prendre ou à laisser. Et j'ai choisi même la date de sortie, quoi. Tu vois, j'ai un peu tout choisi.
Ah ouais, ouais. Ok. Donc t'as décidé de produire indépendamment ton album au sein d'un gros label comme Polydor, quoi. Pas mal.
Exactement. Après, indépendamment, c'est quand même eux qui m'ont donné de l'argent.
Oui, je sais.
J'aurais jamais pu le faire.
Oui.
Mais c'est vrai que tous les choix artistiques étaient faits indépendamment de eux, en tout cas.
Mais c'est d'autant plus génial que cet album ait marché, que ça prouve que
parfois
laisser la place à l'artiste, ça marche, même businessment parlant, quoi.
Ben en fait, ouais, moi ça m'a juste confirmé ce truc de j'avais lu pendant toute l'écriture de mon album en janvier 2018 un livre qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups.
Ouais.
Et c'est un livre très très intense sur la femme, la figure de la femme dans la mythologie, dans les histoires, dans les contes, et comment les femmes sont représentées mais depuis des millénaires dans les contes, dans la mythologie grecque, dans les histoires traditionnelles. Et c'est une psychologue, ou je sais pas exactement, mais qui est mexicaine, je crois, et qui décortique tous ces contes. Et en fait, il y avait tout un chapitre sur l'intuition, moi, qui m'a vachement marqué, où c'était avec le conte de la petite fille qui va chez Baba Yaga, là, qui est avec ses poupées et tout, là, tu vois.
Ouais, je vois, ouais.
Le conte de Baba Yaga,
ouais.
Je sais pas exactement comment il s'appelle, mais. Et du coup, il y avait tout un chapitre, c'est un très très gros livre, je l'ai même pas fini encore à ce jour, tu vois, c'est un livre, je sais pas, il y a 500 pages, c'est hyper dense. Et du coup, je le lis. Une fois par an, depuis 3 ans, pendant quelques semaines, et puis après, mais je pense que là, le moment est bientôt venu dans ce confinement. Je l'ai avec moi toujours, tu vois,
ouais.
Mais je lis que très rarement. Et je me souviens d'avoir lu ce passage sur l'intuition, et de m'être dit, mais en fait, j'ai besoin de personne, quoi. J'ai juste besoin d'écouter mon intuition, et voilà. En fait, c'est hyper dur à faire, mais quand on pose une question, le premier truc que j'ai envie de dire, bah, c'est ce truc-là qui est la vérité, quoi, tu vois. Et J'ai appliqué ça sur tout mon album, et c'est vrai que d'avoir un retour des gens, des médias et tout, et d'un espèce de voilà d'écho qui était beaucoup plus intense que sur le premier album, pour moi c'était hyper libérateur, c'était hyper agréable, en fait, de me dire bon bah voilà, en fait, j'ai pas eu tort de d'écouter mon intuition, et tout ça n'était pas vain, et je ne fonctionnerai que comme ça dans la mesure du possible à partir de maintenant. Et du coup, peut-être que ça implique de fonctionner différemment, de réorganiser un peu les équipes autour de moi, de faire moins, de produire moins de musique, parce que tu peux pas. Moi, quand je fais de la musique depuis cet album-là, j'ai du mal à composer un peu à la légère, quoi. Tu vois, je suis un peu là en mode, faut que j'aille chercher des trucs deep, quoi.
Ouais, je vois. Et alors, moi, il y a un truc qui m'a surtout énormément éclairé dans l'écoute de ton album, c'est ces petits films ou ce petit film documentaire, en fait, qui montre un petit peu l'endroit dans lequel tu as enregistré, les conditions dans lesquelles tu as enregistré cet album, et en fait, qui limite un... Comment dire, c'est un peu le film dont ton album serait la bande originale, en fait, tu vois.
Ouais.
Et je vais le mettre dans les liens, en fait, parce que si vous l'avez jamais vu et que vous avez écouté l'album et que vous avez aimé l'album, ça donne, je trouve, une autre lecture.
Une autre lecture.
Tu vois.
Bah ouais. Ouais, c'était un peu un truc indispensable dans ma tête. Je sais plus exactement qui ou quoi m'a donné envie de faire ce documentaire et d'accompagner l'album avec ce documentaire. Et en tout cas, dès le début, voilà, je savais que j'allais avoir envie de revenir un peu dans cet endroit où j'avais écrit et composé presque tout l'album, que j'allais avoir envie d'expliquer un peu ma démarche aux gens. Je pense qu'il y avait quand même un truc où moi je sentais qu'il y avait une césure, qu'il y avait une espèce d'avant-après cet album, et d'avant-après aussi le premier album, tu vois, qu'il y a une espèce de truc qui s'est passé entre les deux, de grandir, de mieux me connaître, de mieux me faire confiance et tout. Et je pense que j'avais besoin de l'expliquer aux gens et que ce soit clair et que ce soit limpide. Et je l'ai fait aussi même de manière individuelle pour chaque chanson sur Instagram. J'ai un peu décortiqué chaque chanson dans des petites sessions que j'ai postées sur Instagram tout au long de l'automne.
C'est trop bien.
Et ouais, j'avais...
Ça donne vraiment une explication. Bah oui, bien sûr. Ça donne vraiment une explication de texte hyper intéressante. Ça donne une autre profondeur à ton album, je trouve.
Bah ouais. Et du coup, j'avais besoin en fait de cette limpidité, tu vois, avec les gens, et de me dire, bah, c'est un album quand même hyper intime et tout. Si je peux aller au bout des explications et de me livrer, voilà, au maximum, j'ai une limite, tu vois, mais jusqu'à ma limite, ben, je pense que ça peut être cool, quoi.
Je trouve que c'est cool parce qu'en plus, je pense que t'as un public jeune. Et tu vois, t'as souvent des artistes qui la jouent un peu artiste maudit en disant tu comprendras ce que tu veux, etc. Enfin, moi, c'est mon interprétation. Ce qui est une démarche que je respecte aussi, tu vois. Mais je trouvais que c'était assez cool que tu viennes donner, toi, un peu d'où te venaient ces textes, en fait. Enfin, vraiment.
Bah ouais, c'est un peu un entre-deux parce que je comprends ce truc-là de laisser un peu les gens imaginer ce qu'ils veulent. Et en même temps, c'est important pour moi de décortiquer un peu ces chansons. Mais l'entre-deux est pas mal, je trouve, parce que ça laisse un peu d'espace et en même temps voilà, ça expose un peu quand même ma vision des choses, quoi.
Ouais, c'est cool. Est-ce que alors il y a un autre truc aussi qui te caractérise, c'est que tu assumes très naturellement ton homosexualité. T'avais d'ailleurs envoyé une lettre sur Mademoiselle à l'époque. Je remettrai le lien. Est-ce que ça fait partie aussi de cette démarche de laisser ton intuition faire?
Cette question-là de mon orientation sexuelle, elle est arrivée assez tard dans ma vie. Parce que pendant des années, pour moi, c'était pas vraiment une question, et je me disais juste que j'étais bizarre et que j'étais pas comme les autres, mais je me disais pas que j'étais lesbienne.
Ouais.
Et du coup, c'est arrivé assez tard, et alors c'était chiant parce que ça m'a pris des années avant d'envisager cette possibilité. Mais en même temps, le fait que ça arrive tard, c'est arrivé dans un environnement beaucoup moins violent que si j'avais eu ces prises de conscience-là adolescente. Mais du coup, pour moi, ça a été assez naturel. J'ai pas vraiment fait de coming out, j'ai pas vraiment fait d'annonce. C'était genre, je suis tombée amoureuse d'une fille, je sors avec une fille, je poste des photos sur Instagram où je sors avec une fille et c'est juste que c'est devenu un peu plus politique, du fait de médias et des journalistes, pas vraiment de mon fait, finalement. Il y a un truc où c'est, je crois qu'en France, même si c'est de plus en plus accepté, qu'il y a de plus en plus de représentation, je pense que les médias, ils ont beaucoup besoin de mettre un peu les gens dans des cases, et même quand les gens sont pas dans des cases et qu'eux-mêmes ne veulent pas être dans des cases, ils les mettent dans la case des gens qui veulent pas être dans des cases, quoi. Donc du coup, voilà.
Oui. Je voudrais parler un peu de la scène avec toi aussi. Parce que je t'avais vu sur scène il y a un petit bail, à l'époque où t'étais encore un bébé artiste, et en fait là je t'ai vu juste avant le confinement dans ce qui sera donc ton dernier Trianon. J'espère que qu'il y aura une suite à ta tournée, parce que vraiment ce concert était fabuleux, et je t'ai trouvé je t'ai trouvé tellement génial sur scène, vraiment.
Attends, mais t'es venu à quel concert, toi?
C'était au mois de mars. Fin février.
Là, récemment ?
Ouais.
Ah ouais, à la Cigale.
À la Cigale.
Yes.
C'était fou.
Ah oui, il était spécial, ce concert.
Alors, c'était ton premier concert après tes victoires ?
Ouais.
Et que...
En tout cas, à Paris, ouais.
Oui. Et en fait, t'as dit un truc qui m'a fait sourire et qui t'a ému d'ailleurs aux larmes. C'est que t'as dit... en fait, comme on m'a beaucoup vu là ces derniers temps, j'avais peur que vous soyez plus là. En gros, ouais. Que t'aies perdu ton public, quoi. C'est fou.
Ben, en fait, il y a un truc où... Pour moi, ça a été tellement intense le mois de décembre, janvier, février, que quand je suis arrivée à Paris, effectivement, première date parisienne après ces victoires, je me disais, ah, j'ai peur que ce soit différent, j'ai peur que... C'est dur de, tu vois, de se dire, bah, en fait, moi, je fais exactement la même chose, alors que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé et que les gens ont plus forcément la même perception de moi, qu'il y a des choses qui me dépassent et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chanté une chanson qui s'appelle Les Séquoias, et à la fin, je sais pas, les gens, ils se sont tous levés. Et j'étais un peu là, genre, waouh, c'est genre, c'est comme s'ils avaient un peu senti que j'étais fébrile, et ça m'a juste fait plaisir parce que ces gens-là, enfin, la plupart des gens qui sont dans les premières rangs de ces concerts, c'est les mêmes depuis 4 ans, tu vois. Et de voir, tu vois, c'est assez rassurant, en fait, de me dire, bah, en fait, il y a une grosse majorité de gens qui sont ici, que je connais d'avant. Les gens, ils sont hyper bienveillants. Et il y a eu une espèce de vague comme ça de love et de bienveillance de la part des gens et que j'ai reçu et tout. Et je sais pas trop, les gens, je sais pas si tu te souviens, mais au milieu de la chanson, ils se sont levés.
Oui.
Je sais plus si c'était la chanson d'avant ou la chanson d'après. Mais je crois que c'est la chanson d'avant, en fait. Pendant la chanson d'avant, les gens se sont levés. Après la chanson, j'étais là, genre, waouh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je me suis mis à chialer comme une... je sais pas trop quoi. Et après, les gens sont restés debout. Et la deuxième partie du concert était dans un mood totalement différent, moi, j'ai trouvé, que la première partie qui était beaucoup plus tendue et beaucoup plus feutrée, quoi. Donc, c'était assez fou, ce concert.
Mais c'est parce que t'as pleuré.
C'est pas mon dernier concert à Paris avant Milan. Mais les gens se sont pas levés avant que je pleure, je sais plus.
Non, les gens se sont levés quand tu t'es mise à pleurer, en fait, quand t'as dit ah mais c'est cool que vous soyez là, ça me fait plaisir que vous soyez encore là, parce que je pensais que vous seriez plus là après ma victoire, que vous auriez décidé de ok, c'est bon, maintenant Pomme elle est mainstream, on va arrêter de la suivre.
Ouais, il y avait un truc comme ça un peu, parce que les gens, il y a des gens qui me suivent depuis tellement d'années que j'ai toujours, enfin je sais pas, c'est très bizarre pour moi, c'est ce truc de la télé, c'est tout nouveau, quoi.
Et puis t'es tellement drôle.
Ouais, je dis n'importe quoi.
Mais ça marche trop bien. Tu devrais faire du stand-up.
Ouais, bah il y a un truc naturel. Moi, je me dis que ouais, que j'ai envie de garder un truc un peu naturel, quoi.
Bah il faut.
À fond.
Le dernier truc, parce que là, il faut que tu ailles après, mais je voulais te parler avec toi de. On parlait tout à l'heure de la créativité dans le confinement et que en fait, tu t'étais retrouvé un peu à sous pression, c'est ça,
ouais.
À être obligé de faire des choses. Je pense que c'est un vrai truc, et notamment avec les réseaux et tout, de se sentir obligé de faire des trucs parce que tout le monde montre tout le temps sa meilleure vie, alors que arrêtez, ouais. On est tous en slip.
Bah ouais.
Et t'as sorti donc mardi un EP éphémère. Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, figure-toi que j'ai succombé à la pression de la créativité et que. Et qu'après avoir passé quelques jours au début du confinement à me dire non, mais moi je composerai pas, j'écrirai pas, il y a une partie de moi quand même qui était un peu titillée. Et en fait, j'ai écrit une première chanson qui parle de mon chien qui s'appelle Puppy.
Puppy.
Et en anglais, un peu dans un truc où je me disais, mais en fait, ok meuf, tu si tu veux écrire des chansons, mais par contre tu n'y arriveras jamais en français parce que voilà, cet album Les Failles, il est tellement récent et tout ce que je dis dedans, c'est encore tellement présent, c'est quelque chose que je porte depuis des mois maintenant en tournée et tout, donc j'avais aucune envie de... J'étais pas du tout dans un mood pour écrire en français, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, essaie d'écrire en anglais, parce que ça fait des années, et puis j'ai commencé par ça, et j'ai commencé par écouter de la folk et par écrire en anglais. Et en fait, rapidement, me sont venues ces chansons, ces chansonnettes d'une minute trente sur des choses... tellement simple, tu vois, sur la situation, sur comment je me sens, sur un moment donné où j'ai eu un peu de fièvre et où j'avais l'impression que j'étais maudite, tu vois, genre c'était très bizarre, sur mon chien, sur le printemps, sur des choses assez simples, en fait, finalement.
Il y a une chanson revendiquée de Child Free, là, où tu dis que tu veux pas d'enfant.
Revendiquer quoi?
Complètement de Child Free.
Ah ouais, il y a une chanson où je dis que je veux pas d'enfant, ouais.
C'est politique, hein.
Totalement. Ben en fait, c'est des chansons où, tu vois, à certains moments dans le premier mois du confinement, j'étais là, genre j'avais des prises de conscience ou j'avais des émotions un peu fortes. Un peu comme d'habitude, c'est juste que je me suis mis à écrire en anglais parce que pour moi, c'était moins direct et plus facile. Et voilà, et donc en fait, il y avait une partie de moi qui n'avait pas spécialement envie ou besoin d'écrire dans cette période-là. Et puis en même temps, il y avait cette pression-là et j'y ai un peu succombé, mais j'étais contente parce que j'ai réussi à écrire des chansons que j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est de les mettre sur les plateformes, mais juste le temps du confinement, parce que pour le coup, j'ai pas du tout... elles ont pas pour vocation, tu vois, de devenir des tubes, d'être exploité. Je vais pas en faire une promo incroyable, je pense.
Oui, en plus,
mais l'idée, c'est juste de...
Tu les enregistres à l'arrache à l'iPhone, c'est ça?
Ouais, je les enregistre à l'iPhone.
C'est bien.
Totalement.
Revenir à l'essence des choses.
Voilà.
Bon, notre temps est écoulé. Merci beaucoup, Claire. C'était trop bien.
Bah non, merci à toi. C'était chouette.
C'était très, très chouette.
J'ai beaucoup parlé, comme d'hab.
Bah, c'est un peu le concept. En même temps, c'est pour ça que je te fais venir. Hein, tu sais, c'est pour que tu parles, tu vois.
C'est vrai. j'arrête l'enregistrement de mon ordi.
Ah, c'est gentil.
Une heure.
Merci beaucoup.
Allez.
Bah, gros bisous aussi, bon courage pour toute la fin du confinement. Et puis bah, pour les gens, je vous mettrai tous les liens pour suivre Pomme sur les réseaux sociaux et également pour écouter ce fabuleux EP. Je vous fais des bisous. Salut Claire.
Yes.
Salut.
Salut, ciao, à bientôt. Ciao.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.